France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans un monde d'intimidation ce soir.
You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. You're gambling with World War III.
Voilà, Donald Trump dans cette fameuse scène du bureau ovale avec Volodymyr Zelensky, presque rentré dans l'histoire maintenant, un bon exemple de la géopolitique, de l'intimidation qui semble avoir cours de ce côté du monde désormais. Bonsoir Frédéric Charillon.
Bonsoir.
Plus géopolitique de l'intimidation, c'est le titre de votre livre « Seul face à la guerre » en sous-titre, c'est publié chez Odile Jacob. Alors Trump est loin d'être le seul dans votre tableau d'intimideur, on y viendra, mais si on s'arrête sur lui, c'est peut-être parce qu'on avait perdu l'habitude en fait d'entendre les Américains parler de cette manière-là, il faudra peut-être s'y faire, parce que ce que vous écrivez, c'est que c'est pas une stratégie, c'est une méthode, est-ce que c'est même une doctrine désormais ?
C'est devenu en tout cas, oui, quelque chose, c'est une pratique qui a cours. Alors, vous nous dites, c'est pas, on n'avait pas l'habitude que les Américains parlent comme ça, nous parlent comme ça,
ouais.
Encore qu'il y a eu quelques exemples, la crise de Suez en 1956, quand on a fait une opération avec les Britanniques et les Israéliens contre Nasser en Égypte, les Américains, avec les Soviétiques, nous ont imposé d'arrêter immédiatement et ont spéculé sur la monnaie britannique pour nous obliger à arrêter cette opération. Mais effectivement, on avait l'habitude de les considérer comme nos alliés.
Alors, mais quand même, puisque vous y allez, peut-être qu'on a eu la mémoire courte aussi, finalement, dans ce qu'est l'histoire américaine, ce que l'histoire américaine nous a donné, dans ce que certains présidents ont dit, c'est pas la peine de remonter très loin, si on remonte en 2003.
2003,
voilà,
exactement.
On se souvient, pendant la guerre en Irak, on n'était pas derrière les Américains qui nous ont promis pique-pendre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils poussent cette logique plus loin que les autres
maintenant,
Donald Trump, quelque chose qui est finalement très américain.
Alors d'abord, oui, c'est parfois assez c'est américain, c'est le rapport de force des relations internationales, de toute façon. C'est-à-dire que vous avez raison, en 2003, Condoleezza Rice, il faut punir la France pour notre position, etc. Oui, c'est les puissants. C'est les puissants, c'est le rapport de force, c'est ce que j'appelle l'intimidation du fort dans le livre, c'est-à-dire ce qui n'est pas celle de Trump, mais c'était celle de l'administration Bush en 2003, c'est un peu celle de la Chine aussi en Asie. Quand la Chine, c'était après une affaire de litiges territoriaux en mer de Chine du Sud, dans les années 2010, la seule vérité, la seule réalité qui compte, c'est que la Chine est un grand pays, les autres ne sont que des petits pays. Ça, c'est l'intimidation du fort. Trump, c'est encore une autre affaire. Trump, vous l'avez montré, on l'a entendu plutôt tout à l'heure avec Zelensky. Il y a aussi de la provocation, il y a beaucoup d'intimidation, mais c'est l'intimidation du fou. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut montrer en permanence qu'il faut s'attendre à tout. C'est une façon de dire à tout le monde, vous ne savez pas jusqu'où je peux aller, et ça peut être irrationnel.
Alors, c'est ce que vous dites, effectivement, et on y viendra. Il y a l'intimidation du fort, il y a celle du faible, il y a celle du fou. C'est une valse à trois qui se joue juste avant. Menacer, finalement, c'est plus rapide que convaincre, non, c'est aussi plus efficace. C'est une méthode de gens pressés, ça.
C'est
quelque chose qui dit le multilatéralisme, on a déjà essayé, ça n'a pas marché.
C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Je ne suis pas du tout certain que ça soit plus efficace. D'abord, parce que vous avez des sociétés qui vont résister. Ensuite, parce qu'on va voir les résultats et les conséquences économiques de la méthode Trump, y compris sur les Américains eux-mêmes, cette affaire de droits de douane qui inquiète d'ailleurs beaucoup un certain nombre d'industries américaines. Mais c'est effectivement, vous avez raison, le message qu'ils veulent faire passer, c'est-à-dire tous les gens qui sont encore dans le dialogue, dans la concertation, dans le multilatéralisme, ce sont des faibles, ce sont des losers, c'est terminé, vous allez voir, avec moi, ça va tourner plus vite, ça va filer doux, et ils se mettent d'ailleurs en scène. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Donald Trump aussi, parce que quelle est la raison de rendre tout ça médiatique, de filmer ? C'est de montrer aussi à son propre public, vous voyez, avec moi, ça va filer doux. Et d'ailleurs, peut-être que la résistance de Zelensky l'a poussé à être encore plus énervé.
Mais là, il essaye d'intimider Zelensky, on l'a bien vu, mais vous dites c'est effectivement à destination peut-être de l'intérieur. Est-ce que c'est à destination de nous aussi à l'extérieur ? Voilà comment je peux traiter tout le monde. Ça parle à qui, ça ?
Ça parle un peu à tout le monde. D'abord, il faut bien se souvenir qu'il y a un truc qui l'intéresse beaucoup dans cette affaire ukrainienne, ce sont les fameux minerais. Et donc, il essaye, on le sent maintenant, on le voit clairement depuis le début, d'imposer sa loi ou sa volonté sur l'affaire des minerais, en s'engageant le moins possible, en n'engageant surtout pas les États-Unis dans des garanties de sécurité. Il a mis ça en public, il a un peu pris en otage un public entier, en pensant que Zelensky n'oserait pas, devant les médias et en direct, s'opposer. Il s'est opposé quand même, ça a déclenché la fureur du président Trump. C'était une façon façon. C'était fait, en tout cas, pour dire aux alliés, regardez, avec moi, on ne proteste pas et on fait ce que je veux. Et à son propre public MAGA, si je puis dire, regardez comme moi je suis fort et comment je défends nos intérêts.
Frédéric Charion, vous écrivez que les grands intimideurs profitent de la faiblesse structurelle des démocraties. C'est quoi notre faiblesse structurelle? Et surtout le fait d'être confronté à l'intimidation, est-ce que ça nous rend forcément faibles?
Non, mais notre faiblesse structurelle, telle qu'elle est vue, en tout cas, par les régimes autoritaires, c'est d'abord d'avoir une liberté d'expression dans un régime ouvert. C'est-à-dire qu'ils peuvent, nous, chez nous, pratiquer l'intimidation, ils peuvent pratiquer la manipulation médiatique, les fake news, etc., puisque notre système médiatique et d'expression est ouvert, ce qui n'est pas le cas chez eux, donc sans risque de réciprocité, puisque chez eux, nous ne pouvons pas, évidemment, nous exprimer. Donc ça, c'est une première faiblesse structurelle. Je pense qu'il y en a aussi une autre, qui est que, évidemment, on fonctionne sur le consensus, on fonctionne sur la discussion, ça prend un petit peu plus de temps, et puis surtout, il y a un politiquement correct dans nos démocraties aujourd'hui qui nous empêche de voir en face la menace. Vous en parliez juste avant, tout à l'heure, avec votre chroniqueur. C'est-à-dire que ça fait toujours chic dans les régimes plus démocratiques de dire « Non, mais vous exagérez, c'est pour nous affoler, etc. » Alors que dans un régime autoritaire, au contraire, plus le discours est guerrier, plus il est mobilisateur. Ça, ce sont des faiblesses.
Alors, vous décrivez effectivement une valse à trois. Il y a dans les intimidants, il y a le fort, celui qui dit « j'ai plus de bombes que toi, donc tu vas mourir ». Il y a le faible, c'est intéressant, qui dit « moi, ma chute est dangereuse pour vous, les gars, donc du coup, il va falloir m'aider ». Vous citez le Liban, vous citez la Jordanie, des pays comme ça. Il y a le fou, vous savez pas de quoi je suis capable. Trump, notamment, c'était face à la Chine, je crois, lui a dit « I'm fucking crazy ».
Oui, c'est un journaliste qui lui dit « qu'est-ce que vous feriez si la Chine envahissait Taïwan ?» Et il répond « ils ne le feront pas parce qu'ils savent que je suis complètement dingue », effectivement, c'était en anglais « fucking crazy ».
Exactement. Et alors, je me suis amusée à mettre la Chine, la Russie, les États-Unis dans cette équation-là, du fort, du faible et du fou. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend très vite qu'ils sont tous les trois à la fois, ou l'un après l'autre, en fonction à la fois des interlocuteurs, mais aussi du moment.
Alors, je dirais que la Chine est peut-être celui des trois qui est le plus dans le registre du fort, en permanence. C'est-à-dire, voilà ce que nous représentons, d'ailleurs nous avons une place dans l'histoire, etc. Poutine, c'est intéressant parce qu'il veut jouer la rhétorique du fort, ça ne marche pas autant que ça, parce qu'effectivement, en Ukraine, il pensait que ça serait quand même réglé en quelques jours, ça ne l'est pas. Et là, il passe, dans ces cas-là, à la logique du fou. C'est-à-dire, puisque c'est comme ça, je ne m'interdis rien, y compris l'arme atomique. Il passe au registre. Chez Trump, c'est encore plus troublant parce qu'il prend la posture du fort. Un peu comme s'il voulait montrer aux autres, c'est-à-dire aux Chinois, à Poutine, autres, qu'il fait partie du club. Je suis fort, d'ailleurs, regardez, je tape sur la table. En réalité, et ensuite, il passe à la logique du fou. Pour montrer qu'il est fort, il se fait passer pour un fou. Et tout ça, on est en train de le découvrir, masque en réalité une extrême faiblesse. Parce que j'entendais l'autre fois, comme beaucoup d'entre nous, le sénateur Claude Malhuret qui disait « pour la première fois de l'histoire, un président américain capitule devant l'ennemi ». Effectivement, il reprend la rhétorique du Kremlin. C'est pas la première fois, on se souvient dans son premier mandat, qu'il avait désavoué ses propres services de renseignement pour soutenir d'autres puissances étrangères. En réalité, il y a une faiblesse incroyable chez cet homme.
Mais vous vous demandiez tout à l'heure si ça marchait ou pas, en disant que ça marchait pas forcément. Mais effectivement, à certains égards, Vladimir Poutine est faible. Et en même temps, le jour où il envahit la Crimée, personne ne dit rien. Donc ça veut dire qu'il a raison, en fait, d'y aller de cette manière-là, et de le jouer à coup d'intimidation, c'est finalement beaucoup plus efficace.
Ça n'a pas marché sur les Ukrainiens. C'est-à-dire que l'Ukraine est maintenant un symbole, l'Ukraine est une nation, personne ne peut plus en douter après ce qui s'est passé. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance du peuple ukrainien. Le lâchage américain est une chose, la résistance des sociétés en est une autre, c'est pour ça que je pense que ça ne marche pas. Aujourd'hui, ceux qui résistent, ce sont les sociétés, qui ne se laissent plus intimider. Il y a un autre exemple, quand avant l'élection présidentielle à Taïwan, la Chine fait de l'intimidation, y compris avec des manœuvres militaires, en disant « si vous votez pour ce monsieur, ça va très mal aller », ça n'a fait que renforcer la détermination des Taïwanais à voter pour lui.
Vous écrivez, plus que jamais peut-être depuis 1945, la guerre rôde au grand désarroi de ceux qui ne la souhaitent pas mais qui n'ont pas encore les outils pour l'empêcher. Ça veut dire que les codes habituels de la diplomatie effectivement sont inopérants ou ont changé. Mais qu'est-ce qui reste si les codes de la diplomatie sont inopérants, y compris pour nous en fait?
On peut aussi changer les codes de la diplomatie. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est un ensemble de pratiques que nous pouvons adapter. Et là, je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être plus ferme. La diplomatie, ça consiste à discuter...
Plus ferme, ça veut dire qu'il faut employer le même ton, en fait.
Ah, il faut employer peut-être pas les mêmes méthodes au sens où on ne va pas se lancer dans les fake news, des choses comme ça. Mais je pense que d'abord, les Européens ont des atouts. On est un acteur commercial et économique important. les Canadiens aussi ont haussé le ton avec Donald Trump. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ça n'empêche pas qu'on continue à faire de la diplomatie. Simplement, il faut qu'on mette des lignes rouges. Si on continue à dire « nous serons consensuels », vous allez voir, ça va s'arranger. Je pense que là, on sera perdant. Et d'ailleurs, l'ancien, le futur ancien Premier ministre canadien, Justin Trudeau, l'a vu, l'a subi lui-même. Il a commencé par essayer de calmer les choses en disant « vous allez voir, je vais discuter avec le président Trump, ça va très bien se passer ». C'est sa propre société qui a envoyé le signal que non, non, on allait résister, on n'allait pas essayer d'arranger les choses. Je pense que les sociétés sont beaucoup plus prêtes à résister à l'intimidation que les acteurs politiques.
Et les sociétés sont prêtes, dites-vous, et vous citez des exemples, et en effet, vous avez raison, Taïwan, on vote malgré tout pour un démocrate. L'Ukraine s'est défendue alors que tout le monde, a commencé par les Russes, pensait qu'ils ne se défendraient pas. Et en même temps, on sent bien monter dans tous les pays qui nous entourent, y compris le nôtre d'ailleurs, un désir de cette autorité-là, cette idée. On entend dire, mais il a raison Trump, parce qu'au moins pour sa marche, il faut qu'il agisse, etc. Donc à la fois, les peuples se défendent, mais est-ce que les peuples ne sont pas en train de réclamer exactement ce qu'on voit en ce moment ?
Alors, il y a une crise aujourd'hui des démocraties libérales, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont pendants depuis des années, qui sont récurrents, qu'on entend encore à chaque campagne électorale et qui sont toujours sans solution. Ça va des problèmes économiques, pouvoir d'achat et autres, jusqu'à la sécurité, en passant par les questions migratoires et autres. Et effectivement, cette communication politique permanente sur des sujets qu'en réalité on n'arrive pas à régler, fait le jeu complètement des acteurs autoritaires, ceux qui s'autoproclament des hommes forts et qui disent, vous voyez bien, rien n'a fonctionné et maintenant, on va donc changer de méthode. Ça marche même à l'international parce que même quand un Trump dit avec ses idées incroyables de Riviera à Gaza, qui sont vraiment au-delà de l'indécence quand on connaît la situation, quand il dit « rien n'a fonctionné au Proche-Orient », là, il n'a pas tort sur ce volet-là, et vous avez un public qui dit « mais oui, c'est vrai, après tout, ça fait des années, des décennies que ces problèmes lancinants n'ont pas trouvé de solution ». Effectivement, il faut passer à autre chose. Alors, on s'apercevra assez vite que les solutions qu'ils proposent vont être désastreuses. Si c'était facile, ça se saurait.
Dans l'un des arguments, Frédéric Charillon, que vous avez dans votre livre et qui explique aussi pourquoi on en arrive à ce genre de situation-là, vous dites que, et là encore, c'est nous, ce sont les sociétés, il y a une autre manière de se parler désormais. Les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus rudes, de plus en plus durs. Donc ça veut dire qu'on est prêt à entendre ce genre de discours et ce genre de langage, parce qu'au fond, on l'utilise nous-mêmes aussi à notre tout petit niveau sur nos téléphones.
Et parfois d'ailleurs, c'est un peu orchestré ou encouragé par des puissances extérieures elles-mêmes autoritaires, cette violence sur les réseaux sociaux.
Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a je sais pas s'il y a un désir, ou en tout cas une maturité, en fait, dans ce sens-là du terme, pour nos sociétés, d'avoir à nos têtes des dirigeants comme cela.
Ce qui est très dangereux, c'est qu'il y a une tentation de ce que les sociologues ou les politologues appelleraient une sortie du politique. C'est-à-dire que vous avez maintenant des populations, ou des segments en tout cas, de populations entiers qui considèrent qu'il est temps maintenant de s'en remettre à des gens qui auront la manière forte, qui vont employer les grands moyens, et que c'est palabres, ces consultations, consulter les gens, ça n'a mené à rien. Il faut maintenant un chef, ça c'est dangereux.
Une toute dernière question rapide. Sur la couverture de votre livre, il y a Vladimir Poutine, il y a Kim Jong-un, Donald Trump et Xi Jinping. Il y en a trois dont on sait pertinemment que ce sont des dictateurs, ils cochent toutes les cases. Trump, c'est quoi ?
C'est quelqu'un qui les courtise beaucoup. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant.
Mais est-ce qu'on est dans un régime autoritaire désormais aux États-Unis ?
Il y a beaucoup d'inquiétudes sur la liberté de la presse, sur l'interdiction d'employer certains mots dans les services d'État, sur la façon dont on limoge d'ailleurs des gens dans les services d'État.
On a glissé vers une démocratie libérale, vous dites ça ou pas ?
Il y a une tentative de le faire. On verra comment le système américain et la démocratie américaine résistent. Mais je crois que la tentative est là aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute.
Géopolitique de l'intimidation, publié chez Odile Jacob. C'est votre ouvrage, Frédéric Charillon. C'est passionnant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe en Afrique du Sud. Tiens, on va rester un peu dans le même sujet, qui a vu ces programmes de lutte contre le sida sabrer depuis que les États-Unis ont réduit USAID à 7% de ce que c'était. Résultat, les cliniques ferment et les risques de mort sont très inquiétants. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Pérou, un incendie en cours depuis une semaine en plein cœur de la capitale Lima.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Claude Guibal. Bonsoir, Claude.
Et nous, on ira en Roumanie après le rejet de la commission électorale de la candidature du candidat candidat pro-russe que Lynn Georgescu et Elon Musk parlent même de coup d'État.
La BO du monde, c'est Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir. Quel est le point commun entre Bob Marley, Kylie Minogue et Beyoncé? Ils sont tous dans la playlist de Charles III. Le roi partage ses goûts musicaux couleur du Commonwealth dans une sélection plutôt consensuelle mais intéressante.
Voilà. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par l'Italie avec celui qui a signé la BO du Règne Animal. Andrea Laszlo, De Simone. Voilà, c'est dans la playlist d'Inter.
Ho perso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero. Ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo, ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Il cuore ed il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo. E senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo. Ma quel che avevo poi non era molto. E ho preso tutto derubando il destino. Ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre. O forse sono troppo sincero. E da una fragile mente. O sono solo immaturo. O più probabilmente. Non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre. Nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore.
Le reportage est en Afrique du Sud ce soir, mais commence avec un chiffre américain, la suppression de 83%. Confirmé donc par Marco Rubio aujourd'hui, le secrétaire d'État américain, 83% des financements de USAID, l'agence de développement américaine. En Afrique du Sud, cette agence finançait en grande partie les programmes de santé appelés PEPFAR contre le VIH. C'est donc un coup de massue pour beaucoup d'associations, c'est surtout la fin des traitements pour de nombreux patients. La fondation Desmond Tutu estime qu'il pourrait y avoir 500 000 victimes supplémentaires du VIH en 10 ans, à cause de cette décision. Beaucoup de cliniques ont déjà baissé le rideau, parfois du jour au lendemain. Au nord de Johannesburg, une clinique associative ouverte en 1946 fait de la résistance. Elle remue ciel et terre pour continuer les soins. La clinique propose des consultations accessibles à tous, essentielles pour les communautés qui vivent dans les townships des alentours. Et le reste, c'est Valentin Hugues qui raconte.
Cette petite clinique Wittkoppen, c'est un mélange de bâtiments en pierre et de préfabriqués, comme un petit village avec une salle d'attente extérieure au centre. Et depuis la réception d'un courrier américain en pleine nuit, avis de résiliation, tout le personnel est sur le pont, 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24.
If we get an hour or two of sleep a night,
si on arrive à dormir une heure ou deux par nuit, on est chanceux. Je travaille 20 à 22 heures par jour, je fais juste des siestes. J'ai une fille au lycée, on ne parle plus que par WhatsApp parce que je ne suis plus très disponible en tant que mère. Mais pour l'instant, je dois m'occuper de la clinique et de ses patients. J'ai eu une discussion avec ma famille, je leur ai demandé de me soutenir pendant cette période difficile.
bear with me.
Parce qu'Hélène Guenya est en première ligne, c'est la responsable des financements internationaux de la clinique.
We're not the only ones.
Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Le résultat, c'est qu'on se met tous à contacter les mêmes donateurs, des organisations internationales, locales, des entreprises, des fondations. Et quand on réalise que tout le monde est en train de faire la même chose que nous, c'est vertigineux. Il faut juste arriver les premiers.
Une situation qui pourrait mettre certains employés au chômage. Mais ici, le choc a laissé place à l'espoir, les dons affluent et la clinique a déjà réussi à financer environ 20% du budget annuel de son service VIH, en utilisant aussi les réseaux sociaux pour appeler aux contributions partout dans le monde.
Je m'appelle Sbonga Shange. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est moi. Je veux simplement que ce lieu continue à vivre. Même si je dois partir, je souhaite juste que les patients soient encore aidés. Parce qu'au final, oui, nos problèmes internes sont importants, mais pas autant que ceux des patients. Vous prenez peur, puis vous vous réveillez le jour suivant avec l'envie de vous battre. Parce que je veux être certaine qu'en quittant ce monde, on l'aura rendu un peu meilleur avec nos actions. C'est mon but dans la vie. Ici, c'est notre pharmacie. Nous entrons dans un endroit que j'aime beaucoup, le service maternité. On vérifie que la grossesse se passe bien. Voilà Véronica.
En ce moment, je redonne espoir aux patients. Hier, une dame m'a dit, si vous n'avez plus mes médicaments, il ne me reste plus qu'à rentrer mourir chez moi. Je lui ai répondu non, ça ne va pas se passer comme ça.
Ici, c'est l'endroit où les patients atteints du VIH récupèrent leur traitement.
Le bâtiment qui catalyse l'inquiétude, car les États-Unis finançaient plus d'un tiers de ce programme de lutte contre le VIH. Nous y retrouvons notre Latla. Son prénom signifie chance en zoulou.
C'est ici que j'ai été diagnostiquée avec le VIH en 1999. Quand j'ai entendu parler de la fin des financements, j'étais choquée. Pour moi, quand on coupe les financements, on met la vie des gens en danger et la mort les guette. On ne peut pas se le permettre.
À ses côtés, Chantelle, exposée au VIH, elle porte son bébé de 7 jours dans les bras, enveloppé d'une petite couverture blanche.
Il s'appelle Vélo. J'ai 39 ans et je suis la mère de deux petits garçons. En ce moment, je suis sous PrEP pour protéger mon bébé. C'est un médicament qui permet au nouveau-né de ne pas être contaminé par le VIH. Mais aujourd'hui, c'est la déception. On vient de me dire qu'ils n'avaient plus ce médicament. Ils ne l'ont pas.
La course contre la montre est lancée. Vidkoppen doit rassembler 200 000 euros pour terminer l'année, 400 000 euros pour fonctionner correctement l'année prochaine.
Valentin Hugues pour le reportage. Merci, à très vite. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord au Japon, où le riz est en crise.
Oui, son prix a presque doublé en un an, alors que c'est la base absolue de l'alimentation dans tout le pays. Un sac de 5 kilos coûte aujourd'hui près de 25 euros en moyenne, contre 12,50 euros l'an dernier. Alors le gouvernement japonais est obligé d'employer les grands moyens. Aujourd'hui, il a commencé à vendre une partie de ses réserves stratégiques aux distributeurs. Plus de riz sur le marché pour endiguer cette folle inflation. Plus de 200 000 tonnes sont ainsi mises aux enchères sur les 1 million stockés dans les greniers publics. C'est la première fois que ces réserves sont utilisées pour des raisons économiques. La flambée des prix est due à plusieurs choses. La récolte 2023 du riz a été mauvaise et donc presque tout a été consommé l'an dernier. Et en août, les Japonais se sont précipités sur les sacs de riz en raison, rappelez-vous, des alertes au méga-séisme qui n'est finalement pas arrivé. Ajoutez à cela l'attitude de certains distributeurs qui ont attendu le meilleur moment pour vendre leur riz au prix le plus fort, une véritable spéculation. Ce riz vendu par l'État sera sur les étals d'ici la fin du mois de mars.
Et nous voici au Pérou, où un incendie dure depuis une semaine.
Oui, il ne s'agit pas là d'un feu de forêt, mais d'un incendie en plein cœur de la capitale, Lima. Depuis lundi dernier, donc, des centaines de pompiers sont mobilisés pour tenter de l'arrêter. Le feu s'est déclaré dans un entrepôt, dans une zone industrielle située dans le centre historique de la ville. Un panache de fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. S'il a été globalement contenu à ces bâtiments, une centaine de personnes ont subi des dégâts. Un campement de tentes a été installé par les autorités pour venir en aide aux sinistrés. Il n'y a pas de victimes. Le terrain est très compliqué pour les pompiers. D'après leur chef, 90% de l'incendie est maîtrisé. Mais il reste des poches de feu difficiles d'accès pour certaines, car elles se trouvent sous des décombres. Boga
Tout en nuance, nous voici en Italie avec la classe d'un champion.
Oui, Tadej Pogacar a remporté samedi pour la troisième fois les Strade Bianche, une des courses cyclistes les plus prestigieuses du pays. Ça déjà, c'est la classe. Le tout malgré une chute à 50 km de l'arrivée. Il gagne quand même, ce qui ne manque pas d'alimenter les débats sur ses performances. Mais là où il a vraiment été très classe, c'est après la course. Pogacar a gagné à Sienne en tant que champion du monde de cyclisme. C'est une première, lui ont répété beaucoup de journalistes. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que je suis le premier champion du monde à gagner ici, parce que si je me souviens bien, l'année dernière, Lotte a gagné. Non, dit-il, Lotte, c'est Lotte Kopecky, coureuse belge, double championne du monde chez les femmes, donc, et qui a en effet remporté les Strade Bianche l'an dernier avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Quel homme a-t-elle répondu sur Instagram après ses propos de Tadej Pogacar, le félicitant, lui qui a donc réparé cet oubli des suiveurs du cyclisme qui sont très souvent des hommes.
Merci beaucoup Kevin, vous partez en passant tiens par les États-Unis. Si vous y allez à vélo, il faut partir maintenant.
Oui, j'y vais là.
Avec un tube planétaire de 2009, c'est l'histoire d'une fille de l'Arkansas qui dit avoir longtemps détesté sa féminité parce qu'elle avait grandi sans modèle queer ni lesbien, vous l'avez ?
Beth Ditto ?
Bah oui, Gossip, Heavy Cross sur France Inter. Beth Ditto, le groupe Gossip, Heavy Cross sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50. C'est Claude Guibal ce soir.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
En Roumanie, Claude, ce soir, secoué par des affrontements hier après le rejet par la commission électorale de la candidature du candidat pro-russe Calin Georgescu, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en novembre dernier.
Oui, un scrutin annulé, souvenez-vous Fabienne, en raison de soupçons de manipulation de ce vote par Moscou. Alors pour bien comprendre, on va faire un petit retour en arrière. Novembre dernier, donc électrochoc quant à la surprise générale, un quasi-inconnu arrive en tête du premier tour avec plus de 20% des suffrages. Calin Georgescu, un ingénieur agronome de 62 ans, climato-sceptique, anti-vax, antisémite, fan de Donald Trump, admirateur de Vladimir Poutine, anti-OTAN, anti-Union européenne, opposé à l'aide à l'Ukraine. Alors, sidéré par sa pureté fulgurante à l'issue d'une campagne menée essentiellement sur TikTok, les autorités roumaines lancent une enquête et elles mettent en lumière des irrégularités dans le financement de sa campagne de soutien sur fond d'ingérence russe. russe et le second tour est annulé.
Et une annulation critiquée par J.D. Vance, le vice-président américain, lors de son discours à la conférence de Munich pour la sécurité.
Oui, on se souvient de ce discours où le vice-président américain a fait la leçon aux Européens sur les atteintes à la démocratie et à la liberté d'expression en Europe en les accusant d'avoir, je cite, « peur de leurs électeurs ». Quelques jours après, Călin Georgescu est brièvement arrêté au cours d'une opération du parquet roumain sur l'existence d'une organisation souterraine visant à démanteler le pays. Et on découvre autour de lui une galaxie de personnages sulfureux. Alors des négationnistes, un influenceur pro-russe, star de TikTok adobé par Elon Musk, ou encore son propre garde du corps, qualifié de Prigojine roumain, à la tête d'un réseau de sécurité privée, en d'autres mots hein, de mercenaires, en lien avec la milice Wagner, un homme qui hier soir appelait ses hommes à se battre pour Călin Georgescu.
Alors Georgescu qui a déposé donc tout à l'heure un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour faire annuler le rejet de sa candidature à la nouvelle présidentielle qui se tiendra au début du mois de mai.
Et ce recours, il va être examiné demain, mais il a peu de chances hein, d'être examiné. Et on craint une explosion de violence hein, parmi les soutiens de Călin Georgescu qui étaient, je vous le rappelle, crédité de près de 40% d'intention de vote. Lui, il sait qu'il peut compter sur le soutien des États-Unis. Il y a plusieurs jours, il a appelé J.D. Vance et Donald Trump à l'aide. Les États-Unis, dit-il, sont le porte-voix de la démocratie. Et hier, c'est Elon Musk qui a pris le relais. La démocratie est officiellement morte en Roumanie et dans l'Union européenne. Ce soir, l'Europe est tombée. C'est ce qu'il écrivait sur son réseau social X avec J.D. Vance. Il parle aujourd'hui de coup d'État. L'intérêt du nouveau régime américain pour la Roumanie est loin d'être anecdotique. Membre de l'Union européenne, la Roumanie, plateforme du transfert d'armes à l'Ukraine, c'est aussi un pivot de l'OTAN dont elle héberge une très importante base ainsi qu'un dispositif de bouclier antimissile américain. Un pays qu'on considérait jusqu'ici comme le rempart des démocraties libérales sans vraiment tenir compte, Fabienne, de la désillusion d'une grande part de sa population vis-à-vis des élites pro-européennes. Et c'est un rempart dont les fissures apparaissent désormais au grand jour.
Claude Guibal, merci beaucoup. À demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait la planète en tournant. Non, parfois ça grince et parfois non. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes à Buckingham Palace. Cyril, ça ne m'étonne pas de vous. Quelles sont les chansons préférées du roi Charles III? C'est l'objet d'une émission spéciale diffusée aujourd'hui même sur la plateforme Apple Music.
De quoi peut-être adoucir un peu l'image austère du souverain. Quelles musiques font vibrer Charles III? En ce 10 mars, jour du Commonwealth, le roi a accepté de lever le voile sur ses goûts musicaux avec cette émission enregistrée dans son royal bureau de Buckingham.
This is what I particularly...
C'est ce que j'ai voulu partager avec vous, des chansons qui m'ont donné de la joie. Elles évoquent de nombreux styles et cultures différents. Mais tout comme la famille des nations du Commonwealth, elles partagent à leur manière le même amour de la vie.
Your very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone.
Le crooner anglais des années 30, Al Bowley, un des tout premiers coups de cœur de Charles, transmis par sa mère. C'est le choix le plus traditionnel de la liste, parce que pour le reste, le roi n'est pas forcément là où on l'attend. L'Australienne Kylie Minogue ou encore Diana Ross et son tube disco Upside Down. Peut-être des souvenirs de soirées dansantes entre grandes ce monde. Ces morceaux me donnent irrésistiblement envie de bouger, confie le roi. Et oui, qui évoque aussi...
Ça fait un peu peur.
Non, on a du mal à imaginer. Voilà. Il évoque aussi ses rencontres marquantes comme la star jamaïcaine Bob Marley dans les années 70.
I remember when he came to London.
Je me souviens quand il est venu jouer à Londres. J'étais beaucoup plus jeune.
That marvelous, infectious energy.
Il avait cette incroyable énergie communicative, une grande sincérité, un souci profond de sa communauté. J'ai encore en tête cette phrase quand il disait « Les peuples ont une voix intérieure ». Il a su faire entendre cette voix de façon inoubliable.
sauf le respect de Sa Majesté. Est-ce que cette sélection reflète vraiment les goûts personnels du roi? Tout le monde n'est pas exactement convaincu.
C'est le cas, par exemple, du célèbre critique musical du Guardian, Alexis Petridis, qui lui consacre un article assez saignant ce matin. Diana Ross, pourquoi pas? Bob Marley passe encore, mais qui peut croire sincèrement que Charles III s'intéresse aux stars actuelles de l'afrobeat, comme le Nigérian Davido? Charles III a beau expliquer qu'il a découvert la musique africaine au Ghana lors de voyages protocolaires dans les années 60, on a du mal à croire en effet qu'il puisse être au fait de ces tendances du moment. Mais pour s'afficher dans le coup, c'est toujours mieux lorsqu'on peut citer quelques références au goût du jour, comme Beyoncé par exemple.
Ah bah ça devient royalisme là pour le coup. Alors est-ce qu'au fond quand même l'objectif de cette playlist et de cette émission n'est pas avant tout diplomatique, Cyril ?
Absolument, Charles III a voulu adresser un message fédérateur à tous les peuples du Commonwealth, britanniques, australiens, indiens, jamaïcains, ghanéens, kényans. L'opération de com est donc soigneusement dosée, il en faut un peu pour tout le monde. Et c'est ainsi qu'on retrouve par exemple la soprano néo-zélandaise Kiri Te Kanawa. Clin d'œil poli, un petit peu compassé au peuple des antipodes.
Voilà, playlist du roi ou pas en tout cas. The King's Music Room est disponible depuis ce matin sur Apple Music. Cyril Sauvageau, merci beaucoup. À lundi prochain.